Nous quittons maintenant cette architecture du chaos pour La valse du grand Méliès, un film de Georges Franju, un documentaire sur Méliès, sur Georges Méliès. La valse du grand Méliès est une musique de Georges von Paris dans le film de Franju, mais les paroles sont de Georges Méliès. Et ce « Vivons heureux » que vous allez entendre pourrait être écrit en exergue de tous les films de Georges Franju.
Georges Méliès, ma grand-mère. Vivons heureux. Une valse que mon grand-père a composée pour elle il y a bien longtemps. Loin de tous, ma jolie. Laisse-moi me mirer dans tes yeux. Mon amour est ardent. La folie, c'est ce qui vaut le mieux. Oublions les douleurs de la vie. Sans plus y penser. Loin de tous, ma jolie.
Aujourd'hui en vedette à l'émission, avec trois invités autour de la table. Edith Skob, bonjour. Edith Skob est l'actrice qui a le joué le plus dans les films de Georges Franju, en tout cas dans cinq de ses films. Elle est tout à fait habilitée à parler de l'œuvre de Franju et en plus c'était une amie de Franju. Donc je suis très très contente de la recevoir. Jacques Champreux, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Alors Jacques Champreux est également quelqu'un qui a été un ami très proche de Georges Franju. Son collaborateur, en tout cas le scénariste de Judex, et le joyeux complice des Nuits Rouges, ainsi que l'acteur principal du film. Voilà. Et Gérard Leblanc, qui est auteur d'un livre qui est paru aux éditions de la Maison de la Villette. Bonsoir Gérard. Et ce livre s'appelle « Une esthétique de la déstabilisation ». Et j'ai trouvé intéressant d'inviter justement Gérard Leblanc pour le questionner sur... sa conception de Georges Franju, qui peut-être sort un peu des sentiers battus, des conceptions en général largement établies et dispensées autour de l'œuvre de Franju. Je crois que le point de vue de Gérard Leblanc est assez original. Je voudrais également remercier la Maison de la Villette qui m'a donné une interview de Georges Franju à propos du Sang des Bêtes et d'Hôtel, non pas d'Hôtel des Invalides, pardon, et de Jean Painlevé. Et nous allons justement entendre maintenant Georges Franju nous parler du Sang des Bêtes et de Jean Painlevé.
Le seul moment de ma vie où je n'ai aucune angoisse, c'est quand je tourne. Et j'ai toujours entrepris des sujets que je redoutais. Si j'ai fait Le Sang des Bêtes, c'est parce que j'aime les animaux. Si j'ai fait Hôtel des Invalides, c'est parce que je suis anti-militariste. Et comme j'ai le vertige, j'ai fait trois films sur la Tour Eiffel. Je veux dire qu'à partir du moment où je suis moi conditionné, c'est la seule chance pour que mon émotion, si je sais la réaliser, passe sur l'écran et impressionne les spectateurs. C'est-à-dire que moi, je m'exprime, mais j'en imprime les spectateurs. Voilà. Que quand on est arrivé seul, naturellement, une équipe de cinéma n'était pas content du tout, surtout qu'on se branchait dans le hangar à foin, qu'il y a eu deux, trois courts-circuits, comme Julien tournait la lumière électrique, ils ont été plongés dans l'obscurité. Mais quand ils ont vu qu'on faisait un film, parce qu'on parle aussi des films qu'on tourne l'appareil à la main, comment voulez-vous tourner dans les abattoirs, sinon l'appareil à la main, l'appareil sur pied, alors que le bœuf passait dans tous les sens, l'appareil était toujours tenu à la main. Et l'image est parfaitement stable, tous les mouvements sont marchés, il n'y a jamais eu de rail. Alors, on ne m'épate pas du tout quand on me parle maintenant de l'appareil à la main. Il était absolument impossible de procéder autrement aux abattoirs. L'éclairage était suspendu, l'appareil était à la main. Derrière, Marcel Fradetal, qui tenait l'appareil, il y avait Champion qui le dirigeait. quand ils voyaient arriver les bœufs, quant à moi, je fermais ma gueule parce que je me réjouissais de les voir nous frôler. Et moi, j'ai travaillé avec Fred Ettal quand j'ai su que ce gars timide avait été l'assistant de Karl Dreyer. Et l'assistant de Karl Dreyer et l'assistant de Rudolf Maté. Rudolf Maté qui était pour moi le plus grand, puisque le chef opérateur à la fois de la Passion de Jeanne d'Arc et du Vampire de Dreyer, du Lilium de Lang, un très très grand chef. Il a été à l'école allemande et ça me convenait parfaitement pour les éclairages que je cherchais à faire réaliser aux abattoirs. Je croyais à l'époque que je travaillais avec Jean Pinlevé. Jean Pinlevé était le fils de Paul Pinlevé. Paul Pinlevé a été un très grand monsieur, mathématicien, Collège de France, Panthéon et président du Conseil en 1914. Et Jean Pinlevé était lui-même, avait une cote considérable. C'était le plus grand type du cinéma documentaire en France. Il n'avait d'équivalent que Ivens et Flaherty à l'étranger. Et je travaillais avec lui, il était directeur de l'Institut de cinématographie scientifique, moi j'étais secrétaire général, et j'ai bénéficié du nom et de l'autorité de Jean Pinlevé pour obtenir une autorisation de tourner dans les abattoirs de la Villette. Bon. Mais un beau jour, on m'a fait comprendre, étant à Vaugirard, qu'il y avait une très grande différence entre posséder une autorisation de faire des photographies dans les abattoirs aux abattoirs de la Villette et de tourner à l'intérieur des échaudoirs des prises de vue cinématographiques. Et c'est vrai, je n'avais pas l'autorisation de tourner des prises de vue cinématographiques à l'intérieur des échaudoirs, car l'intérieur des échaudoirs, ça dépend de la préfecture de police, et là je n'avais aucune autorisation, alors que l'extérieur dépendait de la préfecture de la Seine, et c'est pour ça que j'avais eu l'autorisation de photographier. Mais enfin, avec l'autorité du nom de Pinlevé, le fait que M. Taïa, qui était gestionnaire à l'époque, s'est souvenu que son père, alors qu'il était maire de son village, avait eu une fanfare qui lui avait été offerte par M. Pinlevé alors qu'il était président du Conseil, tout ça fait que j'ai pu tout de même pénétrer aux abattoirs, commencer les prises de vue. À ce moment-là, le poste de police s'est avisé de me demander mon autorisation. Je n'en avais pas. Mais enfin, avec le nom de Pinlevé, comme on n'avait fait aucune connerie, j'ai pu continuer à tourner d'abord à la Villette et ensuite à Vaugirard, alors que le poste de police était beaucoup plus dur qu'ici. Si j'avais commencé par là-bas, je n'aurais pas pu venir ici. Mais enfin, j'ai commencé par ici, j'ai continué par là-bas et tout s'est terminé. Mais j'ai fait le film sans autorisation.
Alors, donc là, vous venez d'entendre la musique de La tête contre les murs, qui est en fait le premier long métrage de Georges Franju. Mais on pourrait peut-être revenir, Gérard Leblanc, sur la première période de l'œuvre de Franju, d'ailleurs avec Jean Pinlevé, et donc son travail sur le cinéma scientifique, et puis ses courts-métrages.
Ce qui est intéressant, en fait, tu nous transportes dans les années 50, donc au début des années 50, fin des années 40, début des années 50. Ce qui est intéressant chez Franju, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un cinéaste vivant, c'est-à-dire qui ouvre, dont le cinéma ouvre sur des problèmes qu'on se pose aujourd'hui au sujet du documentaire et de la fiction, cette vieille opposition qui structure finalement toute l'histoire du cinéma. Et vivante aussi cette œuvre en ce qu'elle s'est placée sous le signe, tout au moins les courts-métrages, de la commande. Et ça, on ne l'a absolument pas compris à l'époque. C'est-à-dire, on a dit, Franju est un auteur de courts-métrages malgré la commande. On n'a pas compris à quel point la commande était productive dans son œuvre et d'une certaine façon nécessaire, dans la mesure où Franju est un des premiers cinéastes qui ait compris qu'on ne filme jamais le réel, mais toujours des représentations du réel, même quand on filme dans le cadre du documentaire. Alors, si on prend son premier film, Le sang des bêtes, enfin, le second, mais le premier de son œuvre, tel qu'il en a établi lui-même la filmographie, finalement, en 1949, c'est un film qui n'est pas un film de commande, et on voit, dès ce film pourtant, Franju sentir la nécessité de se placer sous le signe de la commande. C'est-à-dire, il a demandé pour ce film, dont le sujet est apparent, et l'abattage des animaux dans les abattoirs donc de la Villette et Vaugirard, en 1948, il a dû demander des autorisations de tournage aux préfectures, et il leur a écrit une lettre qui est une lettre du commanditaire. C'est-à-dire, il dit « Je vais tourner un film scientifique et je vais faire des images artistiques, des images picturales, à la Rembrandt. » Hein. C'est-à-dire, il se dédouble déjà, c'est-à-dire, il décrit ce qu'un commanditaire aurait pu lui commander et qu'il n'a évidemment pas exécuté tel quel. Puisque Le sang des bêtes, qui devrait être un documentaire sur des images et un documentaire réaliste sur un phénomène dur à supporter, évidemment, parce que l'abattage des bêtes était très violent à cette époque, encore aujourd'hui, mais les méthodes de la violence se sont un peu transformées, eh bien, en fait, il réussit le prodige de construire des images documentaires et de faire en sorte que le public ne peut pas les considérer comme telles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir un cheval s'abattre, ni d'autres animaux être mis à mort, sans que le spectateur qui peut voir et interpréter ces gestes comme lui demande la voix scientifique du film, la voix technique, qui dit voilà ce qui se passe, avec quels instruments on exécute ces gestes de mort, eh bien, en même temps, le spectateur voit autre chose qui n'est pas contenue dans la simple description des gestes. C'est-à-dire, on est à la fois dans le documentaire et ailleurs. Et d'ailleurs, la relation aux scientifiques qui se construit dans ce film est très curieuse chez Franju et très moderne aussi, dans la mesure où, au rebours de la plupart des cinéastes qui s'intéresse à la science, de fiction qui s'intéresse à la science, Franju considère plutôt la science comme un obstacle à la fiction, c'est-à-dire comme une anti-science-fiction. Comme une anti-science-fiction, c'est-à-dire ce qui, dans le réel, résiste mieux à l'échapper vers la fiction, et c'est d'ailleurs à propos de Feuillade qu'il écrira, qu'il déclarera plus tard que tout ce qui s'échappe vers la fiction et dépassé immédiatement par la réalité. Donc, il y a une tendance chez lui, dès son premier film, à essayer de remettre en question à la fois le fait de filmer le réel, c'est-à-dire le documentaire, et une vigilance par rapport à tout échapper vers une fiction qui, finalement, éradiquerait et supprimerait et mettrait à mort le réel. C'est une position extrêmement originale qu'on retrouve aujourd'hui. Et je dirais que c'est vivant aussi en termes polémiques, à savoir aujourd'hui ce qui domine, c'est l'idée qu'on peut réaliser la sainte alliance entre le documentaire et la fiction dans des films harmonieux, enfin qui combinent l'un et l'autre. Et l'œuvre de Franju montre que c'est impossible, c'est-à-dire que la vérité du cinéma se constitue dans un écart irréductible entre le réel et la fiction, qui se situe entre les deux.
Bien, on reviendra sur cette notion-là parce que je crois que dans ta conception d'une esthétique de déstabilisation, le regard du spectateur qui est assez inconfortable face au film de Franju, c'est un petit peu ta thèse. Mais je voudrais demander à Edith Schkopf ou à Jacques Champreux de nous raconter une anecdote, je crois, à propos, donc, qui est complètement liée à ce fait que Franju venait donc quand même du cinéma scientifique, qu'il doit beaucoup à Jean Painlevé dont il a parlé dans l'interview là, et qu'il avait vu des films médicaux qui l'avaient énormément frappé, notamment, je crois, un film sur la trépanation, Edith Schkopf.
Voilà, il disait que qu'il avait vu le vrai fantastique pour lui, c'était un film de Painlevé qu'il avait vu. Et il s'agissait d'une trépanation. Et il raconte ça, et quand il racontait ça, c'était formidable. Et, parce qu'il raconte d'abord que le patient n'est pas allongé comme dans une table d'opération normale, mais il est assis, il a le crâne rasé, évidemment pas en rouge parce qu'il y a une macrochrome partout, et le malade sourit. Et ensuite, bon, avec une scie, on lui coupe le crâne, quoi. Et il continue à sourire. Et puis bon, voilà, c'est ce qu'il racontait.
Ça l'avait beaucoup frappé.
Ça l'avait énormément frappé parce qu'il n'y avait, comme vous disiez Gérard, on n'était pas dans la fiction parce que c'est du scientifique. Et on ne peut pas faire plus scientifique qu'une
trépanation.
Une trépanation et pour lui, c'était le comble du fantastique.
Oui, il faut...
Jacques Champreux, oui.
Il faut d'abord bien préciser que le malheureux qu'on trépanait, d'abord on lui insensibilise la peau du crâne, et ensuite, il paraît-il que le cerveau est absolument insensible, et donc on pouvait ensuite après ça scier joyeusement le pourtour de la tête du gars, et il avait une tumeur au cerveau, une très grosse tumeur. Et Franju était un conteur exceptionnel, en plus d'être un cinéaste, un conteur cinématographique, c'était un causeur et un conteur exceptionnel. Et un jour, Alain Chlokhov, qui était le fondateur et le directeur du Festival Fantastique du Rex, qui a fait des belles années jusqu'à il n'y a pas très longtemps, qui bourrait le Grand Rex, me dit que je voudrais absolument reconnaître Franju, discuter avec lui de ses films. Alors on l'invite à la maison à dîner avec Georges. Et voilà que Franju dit, effectivement, le seul film fantastique que j'ai vu de ma vie, le seul film d'épouvante que j'ai vu de ma vie, c'est cette trépanation. Et il racontait ça, et à un moment, en plus, il faut ajouter que comme la tumeur est volumineuse, quand on enlève la boîte crânienne, le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne. Et à ce moment-là, Chlokhov, le spécialiste du fantastique et de l'horreur, s'est levé tout blanc, il était faire un petit tour, il était prendre l'air et Franju était fou de joie.
Alors, à propos justement de la manière dont il travaillait la fiction à partir de cette réalité du cinéma médical qui l'avait frappé, on peut peut-être écouter un extrait des Yeux sans visage où on va entendre Pierre Brasseur parler et vous allez voir, c'est un extrait de dialogue des Yeux sans visage. On écoute.
20 février, une semaine après la cicatrisation, quelques taches de pigmentation apparaissent. Plus tard, la palpation révèle de petits nodules sous-cutanés. Le 12e jour, la nécrose du greffon hétéroplastique est patente. 20e jour, les premières ulcérations se produisent accompagnées d'un décollement du derme et de signes d'infection. Le greffon nécrosé doit être retiré. Et un électroencéphalogramme dans la journée.
Docteur, on va me tendre ?
Non. J'espère que non. Ce serait dommage.
Fermez vos yeux. Ouvrez les yeux. Fermez-les. C'est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux ? Je vais faire la stimulation électrique, ça ne fait pas mal. Ne bougez pas votre tête, ne bougez pas. Fermez.
Ouvrez les yeux. Fermez. Ouvrez. Fermez. Ouvrez les yeux. Fermez-les. Ouvrez. Fermez.
Faites-moi apporter le tracé dès que vous aurez terminé.
On voit bien effectivement qu'une première passerelle est vraie et réelle dans l'œuvre de Franju entre le cinéma médical et son cinéma de fiction, qui, enfin la manière dont il a traité la fiction, qui est plus proche d'ailleurs du cinéma d'horreur que peut-être d'autres thèmes. Gérard Leblanc, qui voulait dire quelque chose à ce propos?
Oui, juste, attitude extrêmement insolite à l'époque, c'est-à-dire être à la fois grand connaisseur de l'histoire du cinéma et en même temps refuser tout a priori devant les images. C'est-à-dire toute image peut produire des émotions. Et si une image issue d'un film chirurgical, réalisé sans art apparent, peut produire des émotions plus fortes que Frankenstein, Dracula ou autre incunable ou soi-disant de l'histoire du cinéma fantastique, tant mieux. Il faut préférer des images de chirurgie, ce qu'il fera dans Les yeux sans visage. Et d'autre part, je crois que l'intérêt pour ce type d'image se dédouble en deux là aussi. C'est-à-dire il y a d'une part le film chirurgical d'épouvante, et il y a aussi le film scientifique au sens où il introduit à l'invisible. C'est-à-dire dans tous les courts-métrages de Franju, et dans ses longs aussi d'une autre façon, le cinéma est toujours interrogé et affirmé à partir de ses limites. C'est-à-dire que peut capter le cinéma du réel à partir du visible. C'est-à-dire il y a toujours le seuil de l'invisible qui est mis en scène et marqué par le cinéma de Franju. Et l'invisible, c'est le sujet principal du cinéma scientifique. Donc c'est le cinéma chirurgical, c'est pour la peur, si je puis dire, et le cinéma scientifique, c'est pour l'invisible. Enfin,
J'ai commencé l'émission en passant la valse du Grand Méliès, la musique de Georges de Paris, parce que je voulais justement qu'on parle de ces passerelles, l'histoire du cinéma, Georges Franju. Et on pourrait peut-être d'ailleurs commencer par ça, mais aussi parce que cette chanson d'amour qui a été écrite donc par Méliès pour sa femme me semble quand même très liée à l'œuvre de Franju, parce que je crois quand même que le thème de l'amour est très 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 ancré dans ses films, y compris ses courts-métrages scientifiques et documentaires. Et par exemple, je crois que tu considères, Gérard, que Monsieur et Madame Curie et Hôtel des Invalides sont en fait, malgré les apparences, de grandes histoires d'amour.
Oui.
Par exemple, même Jacques Champreux.
Oui, surtout Monsieur et Madame Curie est un film d'amour, c'est évident.
Gérard ?
Oui, c'est un film d'amour, mais où les deux regards convergent vers l'invisible, justement vers la radioactivité que la caméra ne montre pas, parce qu'elle est immontrable. Et ce qui est remarquable, c'est que le film ne propose pas de métaphorisation ou d'équivalence de ce qu'il ne peut pas montrer. C'est-à-dire combien de films scientifiques, pour nous montrer les électrons, proposent par exemple de montrer des danseurs, des figures de danse, plus ou moins des chorégraphies approximatives. Là, on a deux êtres tendus vers un même objectif, effectivement, qui s'aiment, qui travaillent ensemble et qui regardent l'invisible. Et c'est ce que le film montre admirablement, effectivement, je crois.
Mais au thème des Invalides, pourquoi est-ce que c'est un film d'amour?
Ah, je n'ai pas répondu à la question.
Moi, il me semble qu'au Tête des Invalides, c'est un film, effectivement, comme le dit Franju lui-même avant tout, s'il a fait au Tête des Invalides, c'est parce qu'il était antimilitariste, et c'est un film de terreur, c'est un film d'horreur, c'est un film du côté de la mort, mais il y a ce couple qui est dans l'Hôtel des Invalides, d'ailleurs, tu le dis très bien dans ton livre, je crois, Gérard, si je me rappelle bien.
Le couple qui passe.
Le couple qui passe, et quand même qui termine le film avec le vol des colombes. Et il y a toujours chez Franju, en fait, cette espèce de double mouvement, à savoir d'un côté l'horreur ou la terreur, parce que je ne crois pas que son cinéma soit fantastique, on pourrait revenir sur cette terminologie concernant Franju par exemple, puisque Hôtel des Invalides est un véritable film d'horreur et qui montre bien que tout objet qui concerne l'art de la guerre et donc cet Hôtel des Invalides qu'il filme et qui est un film de commande, ne l'oublions pas, il transgresse complètement la commande, il la détourne pour en faire un film effectivement où tous les objets présenté du canon aux armures en passant par les tombeaux de Napoléon, du maréchal Foch et que sais-je encore, sont en fait, ils les filment d'une telle manière que ce sont des instruments de terreur, d'horreur macabre. Par contre, il y a ce couple de jeunes de jeunes amoureux qui sont là et qui finissent le film, et puis ce vol de colombe, et en fin de compte, je crois que quand même chez Fanjul, il y a un humanisme et une tendresse incroyable qui atténue toujours l'horreur, parce que vous, par exemple, dans Les yeux sans visage, qui êtes la victime, vous, Edith Scob, je trouve que vous avez ce masque formidable qui est à la fois quelque chose, bon, toutes ces greffes que vous subissez, ce charcutage que l'on fait subir à votre visage, c'est horrible, mais vous avez les yeux tellement tristes et tendres que ça atténue considérablement le film, et je trouve que c'est un film extrêmement doux, malgré son horrible sujet. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Edith Scob?
Je ne sais pas, je pense que le personnage que je joue, Christiane Genessier, qui est la victime, c'est une belle personne, je crois que c'est quelqu'un qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie
absolument
de protéger, de... on a envie que ça aille mieux, quoi. Et on l'aime. Mais en même temps, par rapport à ce que vous dites de l'amour, j'ai l'impression que ce soit le couple dans Hôtel des Invalides ou là, avec le vol des pigeons, même à la fin des yeux sans visage, où mon personnage, Christiane Genessier, délivre des chiens et ouvre et délivre aussi des colombes qui s'envolent, et elle s'en va aussi dehors comme ça. C'est poétique, c'est beau, mais je vois ce côté-là un peu presque comme, entre guillemets, justement de la fiction. C'est presque de l'amour auquel on ne croit pas, quoi, parce que c'est un peu...
Oui.
C'est le contraire du côté scientifique des opérations, des films, de tout ce qui est vraiment précis et tout ça. Je trouve que quand Franjur rêve ou montre des enfants ou montre justement des colombes et tout ça, tout d'un coup on est dans un domaine vraiment poétique et presque pas vrai.
Tout à fait.
Enfin, moi c'est une chose que je ressens un tout petit peu.
Oui,
on rêverait que ça existe vraiment, mais c'est un moment où vraiment où ça n'est pas... les choses ne sont pas réalistes, sont presque pas plausibles, quoi. C'est...
Jacques Champreux.
Je crois que c'est un peu réducteur de parler d'amour, d'amour au sens traditionnel.
Je l'entends bien. Tout à fait.
Dans ce sens-là, dans le sens réducteur de c'est
oui.
un couple,
oui, oui,
c'est
oui,
petit
non,
jeune
non,
Jean à la fin de...
Oui, je crois pas que c'est
je
le type de
Franjus. C'était un type qui avait un cœur énorme.
Voilà.
Et finalement, il avait cet amour-là. Il aimait beaucoup. Il était très, très sentimental, très respectueux des femmes. Il avait un côté, comment dirais-je, Roman Courtois chez lui. Mais en même temps, je pense que le fameux plan des nodules dans la poussière, le fameux plan des nodules de silicose en tempête de neige, c'est aussi un cri d'amour.
Bien sûr.
Qu'il y a des gens qui crèvent, oui. Là, et on dit, voyez, et en même temps, ce plan est très beau. On a rien même la
oui.
même chose que ce que disait Edith.
Oui.
C'est-à-dire que les colombes s'envolent,
oui.
Là, c'est des nodules de silicose.
Tout à fait.
C'est tragique.
Mais j'entendais bien, par amour, l'humanisme de Franjus,
ah,
parce
oui.
que je crois que Franjus, de ce point de vue-là, et peut-être Gérard Leblanc, on peut revenir sur Poussière, parce que c'est un film, effectivement, sur la condition, enfin, les maladies du travail. Et je crois que là, il y a un grand thème d'amour chez Franjus, de ce point de vue-là.
Oui, c'est-à-dire il y a ce qu'il ne cesse de montrer, c'est les forces de destruction à l'œuvre par des conditions différentes, variables, absolument. Depuis la sécurité, tu parles des poussières, c'est la sécurité du travail, c'est-à-dire fine de commande encore, on lui demande de montrer comment les ouvriers peuvent se protéger des poussières par des masques, moyens de protection, différents moyens de protection. Et lui, ce qu'il montre, il renverse. Il montre d'abord ce qui, évidemment, si on met des masques, c'est qu'on subit des destructions, encore risque d'en subir. Donc, ce qu'il montre, ce qu'il voit d'abord dans le réel, c'est ce qui détruit la vie. C'est ce qui est destructeur de la vie. Ça, il le voit tout de suite, il le ressent. Et justement, c'est pour ça qu'on ne peut pas filmer le réel. Parce que toutes les images sont finalement contrôlées par des gens qui mettent des sons d'ambiance sur le réel pour le rendre supportable. C'est-à-dire, c'est pas encore l'époque des supermarchés, les années 50, mais c'est quand même déjà... Il y a beaucoup de supermarchés déjà. Et lui, il débusque toujours ce qui est les forces de mort qui sont à l'œuvre de destruction. Mais en même temps, par une dialectique comme ça, qui est lié plus à la, au vivant qu'à une démarche intellectuelle, il y a toujours une force de vie et de libération qui se manifeste. C'est pour ça que moi j'ai tendance à dire que, dans le livre que tu évoquais, qu'on a souvent dit que Franju était surréaliste. Je trouve que c'est pas juste en ce sens-là. C'est-à-dire que pour lui, les forces de la vie et de la mort s'excluent de façon irréductible, et il y a toujours, elles finissent par prendre le dessus, comme dit Edith, sous la forme du rêve, d'un rêve presque inaccessible, comme dans Les yeux sans visage. Mais en même temps, on y croit. Le dernier plan, quand on voit le personnage joué par Edith Scob s'enfuir devant la caméra avec ses colombes, etc., c'est un plan auquel on croit. C'est-à-dire qui n'a pas moins de crédibilité que la séquence de l'opération ou tout autre plan du film.
Mais de toute façon...
On veut y croire, en tout cas.
Oui, on veut y croire, parce qu'on sait très bien qu'à la fin de ce plan, c'est magnifique, mais elle est toujours là.
Bien sûr. Hein,
et elle va mourir.
Ouais.
Et les chiens, qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. Je veux dire, ça me fait penser aussi à la fin de Judex, où il y a ce baiser entre Edith Scob et Janine Pollock. Et puis, d'abord, c'est... Ça montre bien d'ailleurs comment Franju travaillait, comment il était ouvert surtout. On avait prévu dans le scénario une fin à Happy End avec un petit peu un clin d'œil.
Oui.
C'est-à-dire le temps est joli, il fait beau, et puis les amoureux s'en vont comme ça. Et puis il est revenu en me disant, vous savez, on a eu un temps de cochon, hein, c'est moche ce qu'on a fait, alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce plan, j'en sais rien. Et puis, je parle 4-5 jours après, téléphone, mais il était assez matinal, il me téléphone... Vous savez ce qu'on va faire? On va mettre un carton après le plan en disant en hommage à Louis Feuillade et en souvenir d'une époque qui n'était pas heureuse, 1914. C'est-à-dire que finalement, bon, ces amoureux, dont on sent très bien d'ailleurs, c'est une chose qui m'a frappé en voyant le film il n'y a pas tellement longtemps, c'est extrêmement sensuel, c'est-à-dire que c'est pas seulement le happy end, on sent très bien que ces gens vont vraiment faire l'amour. Et dans ce baiser qui a l'air si chaste comme ça en fait. Et puis on sent aussi, justement, à la suite de ça, que lui va partir à la guerre, il va se faire tuer. Et la colombe s'en va. Alors que la colombe était juste un petit clin d'œil, comme ça, un petit gag final, pour rappeler le début du film, pour fermer le cercle. Et ça devient brusquement quelque chose d'extrêmement lyrique et toujours ce côté, donc, pour la vie, contre la mort.
Absolument. On va...